Les infos à Washington.
Au micro, Nanit Salani, il est 12h à Freetown, c'est en Sierra Leone. Bienvenue à ce journal. En RDC, la situation s'apaise à Kinshasa après deux jours de violences meurtrières. La vie a repris son cours presque normal ce mercredi dans la capitale congolaise, à Kinshasa, après donc deux jours de pillage et d'affrontements entre forces de l'ordre et jeunes réclamant le départ du président Joseph Kabila. Le bilan de ces violences, ayant fait au minimum une vingtaine de morts, était encore impossible à établir précisément. Le porte-parole de la police devrait s'exprimer à la mi-journée sur la télévision publique. Dans les quartiers centre et sud de la capitale de la RDC, les plus touchés par ces affrontements violents, les transports en commun fonctionnaient de nouveau, selon des journalistes de l'AFP. La circulation était néanmoins plus fluide qu'un jour normal dans cette mégapole de 10 millions d'habitants habitués aux embouteillages. Les vendeurs à la sauvette qui avaient disparu pendant deux jours déambulaient de nouveau leurs marchandises sur la tête. Les pompes à essence et les boutiques avaient majoritairement ouvert. Pas d'écho visible dans les rues en revanche, les parents préférant les garder un troisième jour à la maison pour s'assurer que le calme est bien revenu. Les violences les plus meurtrières depuis les émeutes ayant frappé la capitale en janvier 2015 ont éclaté lundi matin en marge d'une manifestation organisée par un rassemblement d'opposition à trois mois de la fin du mandat de M. Kabila pour lui signifier son préavis et exiger son départ le 20 décembre. La Constitution interdit à Joseph Kabila au pouvoir depuis 2001 de se représenter, mais le chef de l'État ne donne aucun signe de vouloir quitter son poste alors que le scrutin présidentiel apparaît désormais impossible à organiser dans les temps. Les autorités et les dirigeants d'opposition se sont renvoyés mutuellement la responsabilité des violences qui se sont muées mardi en une multitude d'échafaudés. L'ex-chef de guerre congolais Bosco Ntaganda, en grève de la faim depuis presque deux semaines, a recommencé à s'alimenter, d'après son avocat, devant la Cour pénale internationale. L'accusé, qui avait assuré lors d'une déclaration être prêt à mourir, avait entamé sa grève de la faim pour protester contre ses conditions de détention et accuse la Cour de ne pas lui accorder un procès équitable. Il n'est pas apparu devant les juges de la CPI depuis le 7 septembre. Anne Albertson.
L'ancien chef rebelle s'inquiétait de ne plus avoir aucun espoir de voir ses enfants dans des conditions normales parce que les juges avaient refusé de lever les restrictions imposées sur ses contacts avec l'extérieur après des inquiétudes au sujet d'intimidation présumée de témoins. L'ancien chef de guerre congolais était le premier accusé à avoir jamais entamé une grève de la faim dans les prisons de la CPI. Bosco Ntaganda avait plaidé non coupable de 13 crimes de guerre et 5 crimes contre l'humanité, dont meurtre, pillage, attaque contre des civils, viol et esclavage sexuel commis par ses troupes en 2002-2003 en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Les conflits dans le nord-est de la RDC, qui ont impliqué les armées d'au moins 6 nations africaines dans cette région riche en minerais, ont entraîné des violences inouïes sur les civils, causant la mort de 3 millions de personnes, selon les ONG, et créer une instabilité profonde dans l'Est congolais.
Au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba s'est redit prêt à rencontrer son rival Jean Ping, qui s'est proclamé élu au scrutin présidentiel du 27 août, afin que plus aucun Gabonais ne trouve la mort du fait de la crise post-électorale, selon son porte-parole. Jean Ping a saisi la Cour constitutionnelle le 8 septembre pour demander le recomptage des voix dans la province du Haut-Ogooué. Son adversaire Ali Bongo y a obtenu 95% des voix pour 99% de participation, selon les résultats de la commission électorale. Ce score lui a permis de l'emporter sur l'ensemble du pays avec environ 5000 voix d'avance, selon la CENAP. Leur proclamation le 31 août par le ministre de l'Intérieur avait déclenché des émeutes meurtrières et des pillages massifs. La Cour dispose d'un délai de 15 jours jusqu'à vendredi pour trancher, alors que des rumeurs évoquent un possible report de sa décision.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Poursuite ce mercredi à New York de la 71e Assemblée générale de l'ONU. Le point avec notre envoyé spécial sur place, Timothée Donongmaï.
L'Afrique à l'honneur ce mercredi ici à New York avec la tenue du deuxième forum des affaires États-Unis-Afrique en marche de l'Assemblée générale. Ce sera l'occasion de mesurer le chemin parcouru deux ans après le premier forum et de présenter les nouvelles possibilités d'investissement dans des secteurs comme l'énergie ou les infrastructures. Également à l'ordre du jour ce mercredi, un sommet sur le danger croissant de la résistance aux antimicrobiens. Les discussions doivent aboutir à l'élaboration d'un plan d'action international, d'autant plus que trop peu de nouveaux antimicrobiens, notamment les antibiotiques, sont mis sur le marché pour remplacer ceux qui ne sont plus efficaces. Rappelons que dans son dernier discours à l'ONU en tant que président mardi, le chef de l'exécutif américain Barack Obama a exhorté le monde à surmonter ses divisions. Il a par la suite présidé un sommet des leaders sur les réfugiés. Des engagements de l'ordre de 4,5 milliards de dollars y ont été pris pour un appui non seulement aux réfugiés et leur pays d'accueil, mais aussi leur pays d'origine. Timothée Donagmaï, New York, VOA Afrique.
À New York, où il est venu participer à la 71e Assemblée générale de l'ONU, le président du Niger, Mamadou Issoufou, profite de son séjour dans ce grand centre économique et financier américain pour tenter d'attirer les investisseurs chez lui. Jacques Aristide a demandé à M. Issoufou de lui parler des réformes et changements que Niamey a initiés pour créer un meilleur climat des affaires.
Bien, je vous remercie. Je dois dire d'abord que le Niger a une économie dynamique. Ces cinq dernières années, le taux de croissance annuel de l'économie du Niger a été de 6%. Et nous prévoyons pour les cinq années à venir un taux de croissance de 7%. Et c'est pour cela que, ici à New York, j'ai essayé de sensibiliser les investisseurs pour qu'ils viennent profiter de ce taux de croissance que connaîtra le Niger les années à venir. Je les ai invités à venir investir dans beaucoup de secteurs, dans le secteur des infrastructures, dans le secteur des ressources naturelles, dans le secteur de l'agriculture. Et je leur ai indiqué également que nous avons un bon environnement des affaires au Niger. Nous avons un bon climat des affaires. Il y a beaucoup de réformes qui ont été entreprises et qui sont mises en œuvre dans le cadre du Doing Business. Par exemple, la facilité avec laquelle aujourd'hui on crée les entreprises au Niger, on a simplifié les procédures, on a réduit les coûts, on a réduit les délais de création d'entreprises. Nous avons également entrepris des réformes dans beaucoup d'autres domaines, comme le domaine de transfert, par exemple de la propriété, c'est important pour les investisseurs, comme le domaine de l'exécution des contrats, nous avons mis en place dans le pays des tribunaux de commerce, ce qui n'existait pas auparavant. Il y a eu beaucoup de réformes qui ont été entreprises dans le domaine du commerce transfrontalier, des simplifications de procédures pour les importations ou les exportations, des réductions de contrôle, par exemple, sur les routes. Mais enfin et surtout, nous avons fait beaucoup de réformes fiscales. Le code général des impôts a été révisé. Et il est très incitatif, ainsi que le code des douanes, ainsi que le code des investissements, le code pétrolier, le code minier. Nous avons donc vraiment des facilités fiscales, des incitations fiscales très importantes pour les investisseurs, et je pense qu'ils l'ont compris.
Le président américain organise ce mercredi son dernier forum des affaires, États-Unis-Afrique. Alors, si on peut le dire ainsi, c'est un sommet de Barack Obama avec son ultime sommet avec les dirigeants africains avant qu'il ne quitte la Maison-Blanche. Qu'attendez-vous de cette rencontre, de cette réunion ?
Ce que j'attends de cette rencontre, c'est que les investisseurs américains soient plus agressifs, viennent davantage investir en Afrique de manière générale et au Niger en particulier. L'Afrique, c'est le continent de l'avenir. On voit bien aujourd'hui, les pays africains font partie des pays du monde qui ont les taux de croissance économique les plus élevés. Donc nous invitons les investisseurs américains à venir partager cette croissance avec nous.
Le président du Niger, Mamadou Issoufou. Ici, aux États-Unis toujours, une violente manifestation a éclaté mardi à Charlotte après qu'un policier a abattu un noir qui était selon lui armé d'un pistolet sur le parking d'une résidence de la ville de Caroline du Nord où la police recherchait un suspect. Les manifestants et la famille de la victime répondant au nom de Kate Lamont Scott contestent le fait qu'il était armé, certains affirmant qu'il avait un livre à la main, ce qui a relancé le débat sur les violences policières envers la communauté afro-américaine. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous retrouve dans moins d'une heure pour un nouveau journal. Restez à l'écoute de La Voix de l'Amérique. Vous pouvez visiter notre site internet voaafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. Moi, je viens de là où